Et c'est le journal d'Hélène Philly. Bonjour Hélène.
Bonjour à tous. Les États-Unis à 100 jours de la présidentielle. La campagne n'a jamais été aussi indécise. Joe Biden, le démocrate, profite des déboires de Donald Trump dans la gestion de l'épidémie de Covid-19. Nantes, une semaine après l'incendie de la cathédrale, le principal suspect reconnaît les faits. Mis en examen cette nuit, placé en détention provisoire, France Inter a pu joindre son avocat. Face à l'épidémie de coronavirus, la culture souffre, mais un secteur s'en sort plutôt bien. On va en parler avec vos invités, Laetitia, à 8h20.
Oui, puisque le confinement a révélé une envie de lecture des Français. Les ventes de livres se sont envolées au mois de juin. Comment se porte le secteur de l'édition à un mois de la rentrée littéraire? Est-ce qu'il a changé des choses pour les auteurs? Pierre Assouline, écrivain et membre de l'Académie Goncourt, ainsi que Bruno Caillé, le directeur de la diffusion chez Madrigal, seront les deux invités du grand entretien à 8h20.
Dans ce journal, encore des tests virologiques PCR intégralement remboursés, sans ordonnance. Le ministre de la Santé vient de signer le décret. La loi bioéthique revient demain à l'Assemblée. Et puis une exposition pour les oreilles à la fin de ce journal.
France Inter.
Le 3 novembre, dans 100 jours, l'échéance se rapproche aux États-Unis, mais une victoire de Donald Trump n'a jamais semblé aussi lointaine. Le président américain paye sa gestion calamiteuse de l'épidémie de coronavirus et laisse le champ libre à son adversaire démocrate, Joe Biden. Campagne discrète, pandémie oblige, mais il prend de l'avance. C'est la correspondance à Los Angeles de Loïc Piala.
En position favorable dans des états clés comme la Floride ou la Pennsylvanie, Joe Biden n'a pas forcément intérêt à trop se montrer. Ça ne veut pas dire que sa campagne est à l'arrêt. Son équipe continue de recruter du personnel et le démocrate a dépensé cette semaine autant que les deux derniers mois en budget publicitaire.
Right now, we're at a crossroads.
L'un de ses derniers spots présente l'Amérique à un croisement avec un Donald Trump qui cherche à diviser le pays. Lors d'une rencontre virtuelle avec des électeurs cette semaine, le démocrate a même traité son adversaire de raciste.
Nous avons déjà vu des racistes qui ont essayé d'être élu président. Il est le premier à y arriver.
Le camp Biden n'hésite pas non plus à exploiter la gestion discutable de la crise sanitaire par Donald Trump. Autre atout, le toujours très populaire Barack Obama. Cette semaine, une conversation entre les deux hommes a été publiée sur les réseaux sociaux.
Comprendre la personne en face de soi, tout commence là. Si tu peux t'asseoir avec une famille et voir ta famille en eux, si tu peux lier tes propres luttes aux leurs, alors tu vas te battre pour eux. Et c'est ce qui t'a poussé à entrer dans la fonction publique.
Motivated you to get into public service.
Mais rien n'est garanti. 100 jours laisse le temps à Joe Biden de commettre les gaffes dont il a le secret. Le clan Trump y compte bien et place beaucoup d'espoir dans les trois débats prévus au début de l'automne. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Inter.
La présidentielle américaine à 100 jours. Donald Trump fera-t-il mentir les statistiques? Un dossier à retrouver sur franceinter.fr avec les reportages de nos correspondants aux États-Unis, évidemment.
Allez, on va à Nantes maintenant. Le principal suspect de l'incendie de la cathédrale de Nantes a donc reconnu les faits cette nuit.
Un bénévole du diocèse déjà interrogé la semaine dernière. C'est lui qui devait fermer la cathédrale. Il y avait des incohérences dans son emploi du temps. Une semaine plus tard, l'enquête forte de nouveaux éléments. L'homme est donc mis en examen et face au juge, il a reconnu cette nuit avoir allumé les feux. C'est ce que confirme son avocat, maître Quentin Chabert, qu'Anne Patinec a pu joindre pour France Inter.
Il a avoué les faits qui lui étaient reprochés, comme l'indique le procureur de la République, c'est-à-dire les faits de destruction et dégradation d'un bien par incendie. C'est important. Maintenant, c'est le temps de l'enquête longue, c'est le temps de l'instruction et c'est le temps, je pense, de l'apaisement. En plus, quelqu'un qui a une foi catholique, évidemment, c'est compliqué. Il regrette les faits, c'est certain. Il est dans une sorte de repentance, pour reprendre un terme qui correspond à ce dossier. Je pense qu'il ne pensait pas du tout arriver un jour dans sa vie-là. C'est quelqu'un qui n'avait pas du tout le profil de quelqu'un qui pouvait commettre ce type de faits. Donc, voilà, c'est des choses qui seront sans doute développées dans le cadre de l'enquête. Pour l'instant, on est au tout début, donc il faudra laisser le temps de l'enquête au juge d'instruction de faire son travail sereinement.
Maître Quentin Chabert au téléphone d'Anne Patinec. Une information judiciaire est donc ouverte pour dégradation et destruction du bien d'autrui par incendie. L'enquête se poursuit. Le suspect risque 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Des tests virologiques PCR intégralement remboursés et sans ordonnance. Le ministre de la Santé confirme la publication de ce décret dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin. Pas besoin de justification ou de présenter des symptômes pour se faire tester. Olivier Véran qui précise que l'on atteint des désormais les 500 000 tests hebdomadaires et qui met en garde une nouvelle fois contre le relâchement dans des rassemblements familiaux ou festifs. À ce sujet, le Puy du Fou revoit son dispositif et sa jauge. Les images de la Cinécénie de vendredi soir face à 12 000 spectateurs ont créé la polémique, même s'ils avaient installé trois tribunes distinctes de 4 000 places. La préfecture avait exprimé des inquiétudes sans interdire la représentation, mais le Puy du Fou préfère finalement revenir à une jauge totale de 5 000 places pour le prochain spectacle. Et voici un autre dossier épineux pour le ministre Olivier Véran. La loi bioéthique revient à l'Assemblée nationale demain pour la seconde lecture. Délicat projet de loi qui ouvre la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Pour s'assurer d'un passage du texte sans encombre, le ministre de la Santé a bien cadré les choses auprès des députés de la majorité Élodie Forêt.
Déminer le terrain pour éviter l'accident en séance. Très occupé par le Ségur et la gestion du Covid, Olivier Véran a cette semaine enfin pris le temps de venir parler de la loi bioéthique aux députés LREM. Pour leur rappeler notamment la position très claire de l'exécutif, au maximum, il faut conserver le texte équilibré issu de la première lecture. Rappel nécessaire car sur le sujet, la majorité connaît des désaccords. Certains souhaitaient aller plus loin que ce texte initial et ont fait voter en commission spéciale début juillet des nouvelles mesures dont le diagnostic préimplantatoire avant une PMA qui permet de repérer une anomalie chromosomique avant l'implantation de l'embryon. Et puis la méthode ROPA, l'échange d'ovocytes au sein d'un couple de femmes. Des mesures rejetées par une partie du groupe qui agite le chiffon rouge de l'eugénisme et de la GPA, soupire un député. Rejetées aussi donc par l'exécutif qui n'a prévu que 25 heures de débat. Gilles Legendre, patron du groupe, résume. Voter librement, oui. Réécrire le texte, non.
La relance sera verte. Promesse de Bruno Le Maire ce matin dans le journal du dimanche et le ministre de l'économie en donne pour preuve les 30 milliards d'euros qui seront consacrés à la transition écologique dans le plan de relance à 100 milliards. Après les annonces du Premier ministre hier à Nice et notamment sur la généralisation de la forfaitisation des délits de stupéfiants, Aurélien Taché ce matin sur France Inter, député du Val d'Oise, ex-République En Marche, regrette que le sécuritaire soit privilégié au détriment des sujets de santé publique. 18 maires de droite, demandent par ailleurs à ce que leurs policiers municipaux puissent avoir un accès total aux fichiers des permis de conduire, des voitures volées ou des fichiers S. Tribune à lire dans le journal du dimanche.
Hélène Philly, vous nous emmenez pour terminer votre journal dans un drôle d'univers sonore à présent.
Celui de la SMR, un acronyme intraduisible que vous connaissez peut-être. En tout cas, il est bien connu sur la toile et les réseaux sociaux. Imaginez des sons, on froisse, on gratte, on murmure pour créer des sensations chez l'auditeur. Des frissons, un apaisement, du plaisir même. Bref, c'est un vrai phénomène qui a même droit à une première exposition mondiale au musée d'architecture de Stockholm en Suède. On suit le guide Frédéric Faux.
L'ASMR, ce n'est pas facile à décrire. Alors le mieux, c'est peut-être de l'écouter. L'ASMR, ce peut être des bruits de bouche. Le son d'un spray. Ou des chuchotements. Si vous regardez ces vidéos avec un casque sur les oreilles, confortablement assis sur votre canapé, voilà ce qui peut se passer selon James Taylor Foster, commissaire de la première exposition au monde consacrée à l'ASMR.
L'ASMR, c'est d'abord une sensation. Des gens sentent des picotements au sommet de leur tête qui descendent dans le dos, comme lorsque l'on regarde un orchestre qui joue crescendo. D'autres ne sentent rien ou une relaxation profonde. C'est quelque chose qui transcende les cultures et le langage et qui est devenu l'un des plus importants mouvements de l'Internet aujourd'hui.
L'ASMR est née en 2009, quand une Anglaise surnommée Whispering Life a commencé à poster sur YouTube des messages où elle chuchotait. Depuis, les vidéos les plus populaires cumulent des centaines de millions de vues sur Internet. Cette exposition, unique en son genre, devrait accueillir le public jusqu'au 1er novembre, sauf si le coronavirus en décide autrement. Et pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'en Suède, une présentation très complète est disponible sur Internet. Stockholm, Frédéric Faux, France Inter.
Et voilà, allez voir sur Internet, ça donne envie, ça vous appelle.
J'adore. Merci Hélène Philly.